ils ont perdu le procès, et qu'en plus, les activistes de TAC, donc il y a un groupe activiste en Afrique du Sud, a pu prendre la défense de cette loi. Mais vous vous rendez compte, le procès, c'était même pas à un moment où on distribuait des médicaments, c'était simplement pour la loi. Ce qui veut dire qu'en plus, en faisant ce procès qui a duré 3 ans d'instruction et tout ça, donc pendant 3 ans, l'Afrique du Sud n'a même pas envisagé de construire une usine pour produire du médicament. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, les labos ont gagné en faisant un combat juridique. Ils ont permis de retarder de 3 ans l'importation ou la fabrication de molécules. Autre idée et autre procès, le Brésil a réussi à copier des médicaments et en distribue à 100 000 personnes au Brésil, c'est-à-dire à peu près 1/8 de la population séropositive. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même, ça change tout, puisque le Brésil, de ce fait-là, a réussi à faire baisser de 50% la mortalité due au VIH dans son pays. Et puis le Brésil étant un pays quand même qui peut produire beaucoup plus qu'à 100 000, il s'est dit, moi je pourrais peut-être importer quand même, je pourrais vendre les molécules en Afrique, tout ça. Et légalement, il aurait plus le droit de le faire. Au niveau du droit international, il aurait pu le faire. Qu'a fait le gouvernement américain? La même industrie pharmaceutique a demandé au gouvernement américain de porter plainte. C'est donc l'administration Clinton qui l'a fait, mais Bush avait aussi soutenu. Ils ont porté plainte devant la gamme permanente du contentieux de l'OMC. Tout simplement. Même chose, la plainte a été retirée après négociation à la conférence des Nations Unies de juin dernier sur le sida, contre le marchandage. Hein. Il faut être très clair. Les États-Unis ont, parce que nous on était là, dans les couloirs des Nations Unies, ils ont dit OK pour retirer la plainte, mais ils se sont mis d'accord sur des choses qu'on a avec les médicaments, qui ont à voir avec la commercialisation d'autres matières premières. Ils ont retiré la plainte, mais le résultat, c'est que le Brésil, pendant 2 ans, n'a pas pu exporter ses molécules chez des pays africains, et aucune avancée sur le traitement. Alors, ce qui change un peu aujourd'hui, même par rapport au débat qu'on a fait ici l'année dernière, c'est que on est sur un principe de base qui était abolition de la propriété intellectuelle partout où elle est due. Ce qui est une position très radicale, ce qui fait aussi que beaucoup d'associations de contrôle sida s'y raccordent pas parce qu'ils sont contre l'abolition de la propriété intellectuelle. Nous, on estime que partout où elle est due, elle doit être abolie. Mais on sait bien que ça, c'est une position maximaliste et que de toute façon, on ne l'aura pas. Parce que l'industrie ne peut pas renoncer à ses brevets. Alors, ce qui se passe, c'est 2 choses. D'une part, l'industrie pharmaceutique qui a des brevets, les gros labos, n'annoncent pas leurs brevets, mais ont fait baisser leur prix. C'est comme ça que, par exemple, Glaxo, encore la semaine dernière, a vendu à la Roumanie ses médicaments avec une baisse de 90% par rapport au prix pratiqué en France. Ce qui veut donc dire qu'ils font encore du profit en les vendant à 90% moins cher. C'est pour vous dire quand même la marge qu'ils se font quand ils en vendent. Ou alors, mieux que ça, le laboratoire Merck Sharp Dohme qui offre 1 milliard de dollars de thérapie au Botswana. Mais en échange, le Botswana refuse d'acheter à d'autres marques et refuse d'acheter à Cipla en Inde. Donc quand vous n'avez rien, bah, vous prenez le milliard de molécules qui vous permettent de soigner votre population. Ça, c'est donc, ils jouent sur le prix, mais le brevet est maintenu. Deuxième chose, ils envisagent peut-être de racheter les entreprises de générique. Cipla, par exemple, qui a quelques difficultés financières, on sait que maintenant, tout le monde essaie de racheter cette entreprise. Troisième manière de faire, faire pression juridiquement, mais aussi par la violence en Thaïlande, contre l'industrie qui a voulu copier la DDI, où il y a eu des violences, la violence, voilà, tout simplement, contre les chercheurs qui développaient ça. Ou faire pression sur la Thaïlande en disant si vous continuez à ce que cette industrie veuille fabriquer cette marque, on vous fait pression sur l'ensemble de votre exportation aux États-Unis. Donc si vous empêchez la Thaïlande d'exporter aux États-Unis. Donc, mais évidemment, absolument pas de changement sur le revers. Donc notre travail, ça a été à Doha, Qatar. Il y avait déjà eu, vous le savez, au G8 à Gênes, une toute grande discussion sur le sida qui était vraiment une discussion de dupes, mais néanmoins, c'était à l'ordre du jour. À Doha, ce qui a changé, c'est que depuis 2 ans, beaucoup d'États africains ont pris des positions de principe contre la propriété intellectuelle sur le médicament, pour l'épidémie de VIH. Mais évidemment, ce qui va se passer derrière, c'est que ces mêmes États veulent la même chose pour le paludisme, pour la tuberculose et pour toutes les pathologies graves qui ravagent leur pays. Et les États africains qui commencent à être obligés de prendre en compte l'épidémie de sida, parce que c'est aussi leur immobilisme qui a fait qu'on a pu laisser faire ça, qui sont aussi acculés à pas mal de choses du fait que leur population commence à beaucoup se mobiliser, ces États africains, depuis un an, mènent un combat juridique pour avoir des accords intermédiaires sur la propriété intellectuelle pour les médicaments VIH. Et ce qui s'est passé à Doha, c'est un accord pour, ça qui est dingue, c'est qu'ils ont voulu, ils ont dit, on va donner un accord pour permettre une possibilité de distribuer ou d'importer des médicaments génériques dans le cadre du sida, alors que dans les accords ATPIC de 1995, elle existe cette possibilité-là. C'est-à-dire que, en gros, l'OMC a une vision restrictive de son accord ATPIC pour redonner à Doha une vision, enfin comme s'il faisait un cadeau à tout le monde, qui est en fait restreindre le champ d'application normal de l'accord ATPIC. Néanmoins, c'est un accord politique qui permettrait théoriquement aux États d'importer et de distribuer ou de fabriquer même leurs molécules. Ce qui fait aussi dire maintenant à l'industrie pharmaceutique et aux États occidentaux, ben vous voyez, le problème est réglé, on a signé Doha, ça y est, plus de problème sur la propriété intellectuelle, vous voyez que le brevet n'est pas un frein à ça. Évidemment, la question de ces brevets, parce que c'est un accord politique et c'est pas un accord qui, à mon avis, va se traduire juridiquement dans des accès aux soins pour les personnes. Et actuellement, et nous on le voit puisqu'on a créé une mailing list d'activistes, en fait, là-dessus, j'en dirai un mot juste après, les seules rentrées de médicaments dans ces pays, ce sont des médicaments génériques que les États importent. Donc c'est ça où c'est assez génial, c'est maintenant le Niger, le Botswana, l'Éthiopie l'envisage aussi. Bon, vous voyez, des pays quand même pas énormément de fonds envisagent d'acheter 1000 lots de traitements génériques. C'est-à-dire qu'au début, ils en prennent 1000, puis 2000, puis 3000. C'est pas beaucoup. Mais l'intérêt, c'est qu'eux-mêmes sont rentrés un peu en résistance sur la question de la propriété intellectuelle. C'est un jeu très dangereux pour eux, parce que, évidemment, ils risquent de perdre beaucoup en termes de développement et puis de problèmes de coopération. Mais en même temps, ils n'ont pas renoncé à ce que les activistes leur enjoignaient de faire. Donc ça, c'est quand même peut-être une avancée. Mais ce qui est certain, et là, il faut être pragmatique sur notre combat politique, notre combat pour l'abolition des brevets, on ne l'a pas du tout. Enfin, on n'a pas pu la maintenir. Alors, ce qui est vrai en même temps, c'est que il y a des brevets qui vont. Le problème demeure, que je vous disais que les brevets les plus intéressants vont tomber entre 2013 et 2017. Et c'est les molécules qui sont les plus efficaces. Donc, on aura besoin, en fait, si on veut vraiment régler l'épidémie, il faudrait vraiment les distribuer aujourd'hui. Donc, là, les accords qu'on a eus actuellement sont encore des choses extrêmement insuffisantes par rapport à ce qu'on devrait faire sur la suite. Et c'est bien pour ça que quand même l'industrie pharmaceutique est un peu gênée, parce qu'ils savent qu'ils ont encore 15 ans de lutte avec les activistes tant que les brevets ne sont pas tombés. Donc c'est assez problématique. L'autre problème, c'est que les brevets pèsent trop pour l'industrie pharmaceutique actuellement du fait de la spécificité du VIH. Je vous explique pourquoi. Le VIH, on sait maintenant le ralentir en combinaisant des molécules, en faisant des combinaisons. Mais ces combinaisons de molécules, elles appartiennent parfois à 10 firmes différentes. En général, pour les gens très malades, on donne 5 à 6 molécules qui appartiennent à 4 ou 5 labos différents. Sauf que ces combinaisons, il a fallu les tester avant, pour voir comment elles marchaient. Donc pour les tester, il faut demander au laboratoire, à ces 5 ou 6 laboratoires, donnez-nous vos molécules, même si elles ne sont pas encore distribuées. Les labos ne veulent pas. Ce qui veut dire que même pour eux, leur lutte de brevet, leur peur d'être copiés et tout ça, fait qu'ils peuvent même plus entreprendre beaucoup d'essais de stratégies thérapeutiques qui pourtant sont les clés pour eux de leur développement sur 20 ans de leurs molécules. Puisque en plus ce qui se passe, c'est que le virus du VIH s'habitue au traitement qu'on lui donne, comme tout virus, ce qui fait que le virus s'adapte et que les traitements anciens ne sont plus efficaces. Donc le labo est obligé de faire de la recherche constante. Sauf que sa logique de brevet et de prix l'empêche de le faire. Donc ils essaient de trouver des accords, mais c'est tout leur problème. Par exemple, des labos qui n'ont pas pu développer des molécules parce qu'ils se sont rendus compte, alors que les molécules étaient mises à disposition, que leurs molécules combinées avec 4 autres molécules étaient en interaction. Et c'est un échec pour tout le monde dans ce cas-là, puisqu'en fait, ça veut dire que le marché n'est pas bon. Donc même chez eux, ils sont obligés aujourd'hui de revenir sur leur raisonnement, mais c'est vrai que leur profit étant suffisamment important, ils ne perdent pas suffisamment d'argent pour se remettre en question au niveau du brevet. La dernière chose très inquiétante pour nous, c'est que il n'y a pas que les médicaments qui sont brevets, il y a aussi tout ce qui est test, tout procédé chimique. Par exemple, le fait de faire un test VIH, le fait de tester le VIH, bon, ça aujourd'hui c'est breveté, mais ça l'a été. Les marqueurs que l'on cherche dans le sang pour voir des choses sont brevetés. Donc tous les tests, hépatite C, toutes ces choses-là sont brevetées. Et c'est les mêmes labos, évidemment, qui font les tests. Hein. Ils se rachètent les uns les autres. Donc là aussi, c'est un problème, parce que nous, on se bat évidemment pour l'accès aux médicaments, mais vous ne traitez pas des gens quand vous ne pouvez pas leur faire des bilans sanguins et vous ne pouvez pas connaître exactement l'état de leur maladie. Et évidemment, ce qui coûte cher, notamment en Afrique et en Asie, c'est le dépistage et c'est les bilans. Et sauf que c'est les mêmes labos. Donc on doit aussi s'attaquer là-dessus, sur leur procédé, puisqu'on espère... Le but, c'est quand même là, directement, d'avoir les tests, en fait, gratuits. Gratuits, tout simplement. Pour finir, parce que, même chez des gens très ouverts, on défend souvent l'industrie pharmaceutique en disant « Mais quand même, pour bien qu'elle se rembourse sa recherche, des moyens quand même de contrer cette argumentation qu'on entend tout le temps. » La première chose, c'est que sur le VIH, les premières molécules ont été créées en 87. Donc vous imaginez que distribuées quand même à tous les pays occidentaux, ça fait longtemps que la bourse est remboursée. Par exemple, l'AXE nous l'a toujours dit, il l'a prouvé. En vendant la ZT 90 francs moins cher, 90 fois moins cher, il gagne encore de l'argent. Et il gagne encore beaucoup d'argent. Ça c'est l'AXE qui nous l'a dit sans aucune gêne. Donc premièrement, vous pouvez vous rendre compte de ça. Deuxièmement, c'est la connerie de la logique de marché. Les labos disaient longtemps qu'on ne peut pas baisser leur prix de médicaments. On ne peut pas baisser le prix parce que sinon on se rembourse plus nos frais de recherche. Donc on ne peut pas baisser les prix pour les pays pauvres. Mais le constat, c'est que les pays pauvres donc, n'achetaient pas de médicaments, puisque c'est trop cher. Donc on n'en achetait aucun, même pas un. Donc, par exemple, les labos, il y avait quand même un marché bloqué totalement du fait de leur prix trop fort. Donc, ils ne vendaient rien. Néanmoins, ils conservaient leur prix. Alors, on a mis 10 ans à leur montrer qu'en vendant leurs médicaments 50% moins cher, voire 90 fois moins cher, à des pays qui ne pouvaient pas se permettre quand les prix étaient très forts, là, ils pourraient en acheter, donc ils ouvraient bien le marché. C'est logique. Eh bien non, les labos, pendant jusqu'en 98, ont refusé de baisser leur prix. En se disant, si on commence à baisser les prix pour des pays qui n'ont pas du tout d'argent, par exemple le Rwanda, tout le monde va vouloir qu'on baisse les prix. Donc on ne peut pas le faire. Heureusement, ils sont revenus là-dessus, parce que ils se sont rendus compte que quand on vendait $300 une trithérapie, le Niger pouvait l'acheter, et quand on la vendait $1,500, le Niger ne pouvait pas l'acheter. Donc ils sont quand même rendus compte de ça. Mais ce qui est vrai, et pourquoi en fait, est-ce qu'ils veulent, ils veulent pas baisser leur prix? C'est à cause des États-Unis de ce qui se passe sur le marché américain, qui est par ailleurs le marché qui les défend, qui finance leurs actions en justice. C'est que vous ne connaissez pas trop le système de protection sociale américaine, il n'existe pas vraiment en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, ils pratiquent les prix les plus élevés du monde, même plus cher qu'en France ou en Angleterre. Et le gouvernement américain a toujours accepté parce que c'est leur industrie, c'est une des industries les plus florissantes aux États-Unis. Le problème, c'est qu'ils ont vu des États fédéraux à un moment où ils ont vu que le Glaxo, par exemple, les BMS vendaient beaucoup moins cher dans des pays. Et les États qui ont demandé, bah, nous, on veut que vous nous vendiez le même prix pour la population SDF, pour la population indigente, tout ça. Et en fait, ça revient, en fait, tout simplement, à revenir à centrer sur le marché américain. Dernière chose, ce sont du brevet, du médicament. Les États-Unis sont ceux qui ont mis... ont fait le plus de poursuites juridiques contre les États africains lorsqu'ils ont voulu importer des médicaments génériques ou bafouer le brevet. Sauf qu'au moment de la maladie du charbon, après les événements du 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé pour produire, je ne sais pas le nom du médicament, mais produire le traitement? Et ben, il a fallu violer un brevet. Et les États-Unis l'ont fait tout de suite. Et on même fait pression sur le Canada, si le Canada ne peut pas leur refouler de l'État. Donc vous voyez bien qu'il y a un moment quand il fonctionnait la population américaine, le brevet n'existe plus.
Oui, c'est des blancs.
Exactement. Et puis, le brevet n'existe plus. Et d'un seul coup, on oublie sa position maximaliste sur le brevet. Ça n'a pas beaucoup de monde en parler, mais ça montre toute la singularité en fait, de leur opinion. Et ce qui était génial à Doha, c'est que les mêmes gens qui ont fait en sorte que le brevet sur cette molécule dont j'oubliais le nom, un antibiotique quelconque, ce brevet soit plus utilisé, ce sont les mêmes qui à Doha étaient contre l'accord sur, en tout cas, une permissivité de l'importation de médicaments génériques. Donc vous voyez même que sur le VIH, on pourrait se dire quand même que, sans être un peu utopiste, on pourrait obtenir des actes politiques un peu humanistes, on se rend compte que même là-dessus, on s'en fout. Et il faut être clair, actuellement, on est toujours à 90% de la population qui n'a pas d'accès aux médicaments. Donc il y a à peu près 35 millions de personnes qui n'ont pas d'accès aux médicaments, ce qui est quand même, à mon avis, un drame en soi. Donc, c'est pour vous faire relativiser un peu. Voilà.
En vrai, en fait, j'étais très tenté, comme mon voisin, de vous donner l'exemple des Américains sur ce. C'est parfait. L'exemple est parfait. Et en plus, le parallèle avec la Thaïlande, que tu as très bien dit, je le reprends, mais très brièvement. Quand la Thaïlande a dit, nous, on veut fabriquer des génériques. Pour nous, il y a une urgence, véritablement, on rentre dans les accords de la PIC, une licence volontaire, non pas volontaire, mais
obligatoire.
Qui doit nous permettre de contourner le droit des brevets. Et alors, il y a le premier moyen, donc, c'est de dire contester par les Américains. Ça, ils ont fini par abandonner quand il y avait un peu trop de foin. Et puis, en fait, même au pire, ils ont dit, sinon, on vous taxe les exportations de pierres précieuses que les Thaïlandais exportent beaucoup. Donc, ils ont compris, ils ont arrêté. Donc, voilà. Et effectivement, sur le médicament sur le charbon, là, on voit mieux que c'est un rapport de pouvoir que ça institutionnalise. Donc ça, j'y reviens pas. J'aurais une autre explication à proposer pour les marchés bloqués. En fait, je crois que les sociétés pharmaceutiques, ce qu'elles se disaient, c'est effectivement, de toute façon, on ne va pas leur vendre parce que sinon, on ne gagnerait pas. Mais, et alors, ton argument de dire qu'au moins, ils gagneraient trois fois rien, en fait, c'est peut-être pas tout, parce que je pense qu'il y a plein de sociétés pharmaceutiques qui disaient, on va s'adresser au FMI. Comme ça, le FMI va donner à tous ces sales pauvres un peu de fric pour qu'on en sauve quelques-uns, on les exemplifiera, et après on dira, vous voyez, nous sommes des humanistes.
Ben justement, pour compléter là-dessus, le FMI s'est rendu compte en 1996 que les fonds qu'il donnait sur le développement ne marchaient pas dans certains pays, parce que la population active est malade. Évidemment. Exemple, Afrique du Sud, les mines en Afrique du Sud, 45% de la population minière est atteinte par le VIH. Donc vous imaginez, absence, pas de formation professionnelle, plus de main-d'œuvre capable d'aller dans les mines et tout ça. Donc un gros boulot qui a été fait dans les années 97-98 contre le FMI, c'est de dire, au lieu de financer de la microéconomie, des microstructures et je ne sais quoi d'autre, et des blocages des prix ou je ne sais quoi, payer des médicaments pour la population, puisqu'ils ont quand même un fonds de développement. Et en fait, c'est ça, c'est que là, dès que l'industrie pharmaceutique a vu que le FMI était OK pour acheter des médicaments, ils auraient pu acheter des génériques, ce qui leur aurait coûté 15 fois moins cher. Et maintenant, là, ils ont acheté au prix fort, et alors au prix le plus fort, le plus pratiqué aux États-Unis, non pas le prix pratiqué en Europe, pour vendre ça. Et c'est vrai, Glaxo espérait que la ZT, il le vendrait toujours à son prix normal, au FMI, à l'OMS, à l'UNICEF. C'est tout à fait vrai.
Le fait d'aller les échéances de licences, c'est aussi, enfin, de brevets qui sont proche de la première génération et qui fait
tout
que
à fait.
On essaye de
tirer un maximum.
De tirer un maximum sur les dernières années avant d'acheter. Avant d'avoir les nouvelles générations.
Mais on a dit à plusieurs reprises là, aujourd'hui que le brevet protégeait l'invention. Moi, je suis désolé, c'est une expression que je n'aime pas, parce que le brevet il ne protège pas l'invention. Plutôt plus, il protège l'inventeur. En fait, c'est même pas non plus ça. Je vais vous donner un exemple. Supposons que j'ai un brevet sur un chien. Moi, mon sujet, c'est plutôt brevet sur les dents. Si j'ai un brevet sur un chien, c'est beaucoup plus, d'une certaine façon, que la propriété, parce que ça veut dire que si ma voisine a un chien qui est le même, je peux lui interdire de l'avoir. On revient en fait à ce que tu disais à l'instant, qu'un brevet, le monde étant ce qu'il est, et la propriété, quand plus elle est immatérielle, plus dans les faits, on est propriétaire de l'idée, de ce que, entre guillemets, protège le brevet. Donc en fait, un des effets qui ont été très bien montrés, donc je n'ai rien à redire, c'est d'augmenter la concentration capitalistique et aussi l'appropriation des connaissances. Alors j'entends souvent une critique des multinationales, des transnationales qui a été dite aujourd'hui. Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais que, in fine, on sera quand même assez d'accord, je pense. C'est comme toutes les personnes qui refusent la privatisation du vivant. Moi, je suis opposé à l'appropriabilité du vivant. Le problème est que l'État, il n'est pas un garant de tout est bien. Donc les multinationales, on est d'accord, c'est ça, pour faire bref. Mais en même temps, les États, ils ne sont pas non plus neutres. J'ai envie de dire que le XXe siècle nous a bien montré qu'ils n'étaient pas neutres, qu'ils n'étaient pas forcément le bien. Donc je méfie non seulement de la privatisation du vivant, mais aussi de l'appropriabilité du vivant. Alors, on va en arriver plus au cœur du sujet. Certaines personnes s'étonnent qu'un brevet induise des monopoles. Il faut se rappeler qu'un brevet étant une garantie de monopole, je m'étonne que ces gens-là s'étonnent. Mais c'est peut-être normal, mais je ne suis pas assez intelligent. Alors je vais revenir en fait à un petit historique différent. J'en entendrai pas autant dans des considérations historiques que toi. Alors, en 1838, le USPTO, c'est-à-dire c'est le bureau des brevets américains. À l'époque, un de ses travaux était de récolter des graines un peu partout dans le monde. On pourrait aussi appeler ça du biopiratage, mais on peut considérer aussi, quand on est dans un monde d'échange, que, enfin, d'échange, si jamais ça peut intéresser quelqu'un, je trouve ça beau. Et donc ce USPTO était là pour récolter des graines un peu partout dans le monde, et puis les rapporter pour les agriculteurs ou les fermiers américains. Alors le système a un petit peu changé, puisque enfin, déjà en 1855, il y avait un rapport interne qui disait que, je cite, « les principes de l'échange libre », ça veut dire gratuit, bon, avec toute l'ambiguïté en anglais, libre et universel sont maintenant, notez la vision progressiste, hein, maintenant c'est ce qu'on a plus raison qu'avant, donc ils sont maintenant acceptés pour être le fondement le plus sûr pour le bonheur des nations. Alors, vraiment le monde a changé depuis, puisque donc maintenant le service des brevets américains, il est là pour déposer des brevets, et le ministère de l'Agriculture américain qui a récolté la fonction en fait, de distribuer les semences gratuitement pour les fermiers, c'est ce même ministère, donc l'État, qui a fait des travaux de recherche pour mettre au point Terminator, un procédé de stérilisation des espèces. Donc le service public travaille à la stérilisation. Et les sciences de la vie travaillent à la stérilisation. C'est marrant que les mots sont changés. Bien, donc ça c'est pour tous les retournements qu'il a pu y avoir aux États-Unis. Je ne reviendrai pas trop, mais prenons un exemple concret. Supposons qu'il y ait un principe de brevet sur un gène dans un pays, par les États-Unis par exemple. Supposons que moi, je sois propriétaire donc d'un gène. Je le mets dans un OGM que je fais, je le vends à des fermiers. À cause du pollen, à cause du vent, à cause des abeilles, à cause de je ne sais pas quoi, vous remarquez que je suis en train de reprocher la vie d'être la vie, hein, rétablissement. Donc à cause de la vie, un voisin peut récolter un gène qui m'appartient. Donc ce gène, c'est à moi, c'est un pirate. C'est un contrefacteur au sens du droit des brevets, de la propriété intellectuelle. Là, je prends la version lumineuse. Donc si c'est un contrefacteur, il est logique que moi, j'essaie de le trouver. Donc c'est logique que je paye une agence de détectives pour traquer ce contrefacteur. Il est à la limite logique que je mette un numéro de téléphone de délation pour que tous les copains qui savent qu'il y en a un qui a gardé des graines, qu'ils le dénoncent. Vous pensez que je fais du catastrophisme, mais c'est déjà en cours. Je ne vous donnerai pas le numéro de téléphone de délation, vous en doutez. Alors, il y a plusieurs paysans américains qui se sont retrouvés avec des procès comme ça et qui ont perdu. Et c'est normal qu'ils perdent, si on accepte le principe des brevets, bien sûr, que je n'accepte pas. Et en fait, il me semble que les brevets, par rapport à mon sujet plus précis des OGM, c'est une des multiples façons d'augmenter l'industrialisation de l'agriculture. En fait, on peut montrer que Depuis le début du XXe siècle, le problème du semencier, c'est le suivant. Si jamais je vends à un fermier une semence, il peut la garder et la ressemer l'année d'après. C'est malheureux, c'est propriété de la vie. Quand même, c'est malheureux. Donc l'idée, c'est toujours de se débrouiller pour créer une clientèle captive. Parce qu'il n'y a rien de plus sûr pour un industriel qu'une clientèle captive. Et donc, il faut lui interdire de la garder. Alors, il y a plein de façons qui sont utilisées. Le dernier, c'est en fait les brevets. C'est-à-dire que si jamais vous vendez une semence à un paysan, vous pouvez lui dire, de toute façon, c'est un brevet. Donc, tu peux pas le garder. Sinon, si tu le revends à quelqu'un, moi, je le poursuivrai. Donc, c'est une des façons de poursuivre l'industrialisation de l'agriculture. Il y en avait d'autres. En fait, Terminator, que j'ai mentionné à l'instant, c'est un peu pareil, sauf qu'on stérilise d'une façon biologique. Le brevet, c'est qu'un des moyens de stériliser d'un point de vue juridique. Alors, il y en a d'autres aussi contractuellement. Les semenciers sont suffisamment puissants, et c'est là où on voit que il faut bien voir que la vraie critique, c'est la critique du déséquilibre des pouvoirs dans nos sociétés. Donc un semencier est suffisamment puissant pour dire à un fermier quand tu lui vends des semences, je te vends des semences, mais j'exige que tu me revendes ta production. ça paraît anodin, mais en même temps, ça veut dire que la personne qui se met en amont dans la chaîne de production alimentaire au niveau mondial, c'est le semencier, plus le paysan. Alors on pourrait se dire que je fais du catastrophisme. En fait, il y a un officiel d'une société de biotechnologie qui avait racheté une société de semences. Et il a dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement la consolidation d'une entreprise, c'est la consolidation de la chaîne alimentaire mondiale. Donc c'est pas du catastrophisme. Même si c'était Monsanto, c'est pas plus Monsanto que j'attaque, ni plus les Américains que les Européens. J'ai pas plus de tendresse pour Amadis. Notez une allusion vague à ce genre de discours que je partage. Alors, prenons un exemple par rapport aux pays du Sud. Il y a une entreprise qui est américaine, mais en fait, celui qui contrôle, c'est le prince du Liechtenstein, Hans Adam II, qui a déposé un brevet aux États-Unis sur le riz basmati. Sachant qu'il faut savoir que ça fait des siècles et des siècles que les paysans indiens et pakistanais travaillent, parce que pour eux, l'agriculture, c'est un travail sur soi-même. On ne peut pas séparer le travail sur soi-même de la production de matière. C'est sûr que dans une société industrielle, on va dire que le fermier, c'est un exploitant agricole ou quelqu'un qui produit du porc. Et pas quelqu'un qui élève des porcs. La différence est, à mon avis, importante. Donc il a déposé un brevet sur ce riz basmati. Et il y a eu des contestations. L'Inde a contesté en disant, dites, ça c'est à nous. C'est le croisement de deux lignées qu'on connaît parfaitement. Il n'y a aucun travail d'inventivité. Et c'est là où je trouve qu'on a parfois de mauvais alliés parce que il se trouve que le brevet a finalement été partiellement cassé. Et des gens ont dit, vous voyez, ça prouve que le système de brevet en tant que tel est bon, puisqu'on peut limiter les dérives. C'est aussi à ça que je sens que tu voulais dire tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de dire, vous voyez, la preuve que le système en tant que tel est bon, c'est qu'on a des moyens pour contourner les dérives. Le problème est que pour cet exemple du riz basmati, c'est l'État indien qui s'est bougé, plus beaucoup d'activistes un peu partout dans le monde. Les remercier quand même parce que s'il n'y avait pas eux. Alors, et donc là, c'est vrai que les humanistes se sont dit, vous voyez, quand même, on a un monde qui est bien, qui partage. Je vais vous donner un deuxième exemple. Il y a un semencier américain qui a passé ses vacances au Mexique en 1976. En 76, donc il passe ses vacances au Mexique. Et il découvre en fait une variété de haricots jaunes qu'il aime bien, il en rapporte un sac chez lui. Il fait des multiplications de ses semences, et en 1978, donc 2 ans après, il dépose une demande de brevet et de certificat d'obtention végétale sur ce haricot jaune, qui donc n'avait aucun caractère de nouveauté. Hein. Et il l'a eu en... c'est beaucoup plus récent que ça en fait, puisque c'est en 99, donc c'est en 86, 88, et c'est en 99 qu'il a eu son brevet. Il l'a eu en avril. Et en octobre, il a fait bloquer les exportations par les exportateurs mexicains de ce haricot jaune. On a des exemples de l'exportateur qui dit qu'au début, il n'a pas compris. Ça fait des siècles qu'il vend ce haricot. Il n'a pas compris. Et c'est là aussi où, à mon avis, les gens bien pensants, vous avez tous les humanistes qui ont une foi dans le progrès et dans nos sociétés industrielles, ils vont dire, mais en même temps, c'est pas nouveau. Donc il suffit de contester, on casse le brevet. Oui, mais vous comprenez que pour la procédure, il faut différentes conditions. En clair, $200 000 plus un conseil en propriété intellectuelle dans le pays étranger. Donc ça veut dire que le petit, il paie. C'est sûr. Donc ce système-là, qui prétend organiser les rapports de force, ils sont déjà tellement déséquilibrés que de toute façon, dans les faits, et quelle que soit la bonne volonté, on le doute parfois, des États, ça va contribuer en fait à piller les pauvres. Et je vais revenir un tout petit peu alors, pour conclure sur ce que tu as dit, parce qu'à un moment tu disais qu'il y avait des études économiques qui montraient que les brevets avaient une incidence négative sur l'innovation. En fait, il y a dans le domaine du logiciel, alors ça c'était des études statistiques sur à partir de machin, mais il y a aussi une étude que je reprends en fait des gens du monde du logiciel libre, parce qu'en fait nos combats sont quand même un peu, sont les mêmes. Dans cette étude, le théoricien de l'économie explique la chose suivante. Il dit, imaginez que vous ayez un domaine dans lequel les innovations sont toutes très interdépendantes. Il appelle ça l'innovation séquentielle. Si tout est très interdépendant, un brevet, ce n'est pas seulement le droit sur une invention, c'est un pouvoir sur non seulement tous ceux qui voudraient faire la même, mais c'est aussi un pouvoir sur tous ceux qui voudraient utiliser en partie l'invention. C'est-à-dire que comme c'est très interdépendant, mon brevet me confère un pouvoir de verrou sur tout le développement. Et donc là, on voit que d'un point de vue même théorique de l'économique, on voit bien qu'un système de brevets, quand il s'applique à des domaines où les innovations sont très interdépendantes, va bloquer le développement des recherches de façon automatique. On l'a bien vu avec le brevet sur le gène BRCA1. C'est un gène dit de prédisposition au cancer du sein. Bon, on pourrait discuter tout ça, sachant que les problèmes de cancer et tout ça, c'est aussi beaucoup et c'est même d'ailleurs essentiellement des pollutions. Les courbes d'évolution de taux de cancer, on s'aperçoit que ça a été multiplié par 10 pour certains cancers hors poumon depuis 1925. Et là, c'est les taux de mortalité. Donc, je reviens à mon sujet. Donc, le gène BRCA1, il y a eu un brevet déposé par une entreprise qui se trouve être américaine. Et elle a du coup exigé que même les tests de dépistage soient faits par elle. Et donc, à ses prix. Ce qui veut dire qu'elle peut verrouiller. C'est-à-dire que le brevet, au contraire, de initialement au XVIIIe siècle, il n'est pas là pour augmenter la concurrence. Il est là, dans les faits, pour la diminuer, pour augmenter la concentration capitalistique. C'est pour ça que c'est une question véritablement politique. Et c'est pour ça que, ici je peux le dire sans embâche, mais quand quelqu'un comme Monsieur Jean-François Mattei dit qu'il critique les brevets sur les gènes humains, c'est très gentil, mais je trouve que c'est vraiment encore utiliser la corde de la sensiblerie humaniste, parce que dans les faits, si on accepte des brevets sur un gène qui soit humain ou pas, comme il n'y a aucune distinction scientifique, à terme on les aura aussi sur l'humain. Donc c'est pareil. Il faut quand même lui savoir l'aise, M. Mattei, c'est un des seuls à avoir eu une position forte. Il y a une démocratie libérale, j'avoue. Non, il n'est pas chez les Verts. Je vais peut-être m'arrêter là, on va peut-être plus parler après, c'est peut-être même pas rigolo de parler ça.